Bonjour, Jérôme Darker dans le Pas-de-Calais. Triste premier tour. Nous allons avoir au second tour ce qu'on pouvait espérer de pire pour le climat. Deux candidats très mal notés par Greenpeace et autres associations préoccupées par l'environnement. Dommage, 50 perdus encore. Au revoir, bon courage à la Terre au carré.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Yvan de Carré en centre Finistère. Je vous appelle par rapport aux commentaires qu'ont laissé les deux green grincheux. En les écoutant, je me rendais compte qu'en fait, nous étions face à deux défis en un. À savoir, le premier, c'était de faire redescendre la température sur Terre, mais aussi faire redescendre la température entre les hommes. Je vois mal comment sent la tolérance entre nous, qui sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et tous dépendants les uns des autres, nous arriverons à rendre la Terre plus vivable. Mathieu, Camille, merci beaucoup pour vos émissions et voilà, longue vie à l'émission et aux hommes.
Bonjour, François de Clèle. Les Français ont massivement voté pour l'énergie nucléaire. Le dernier rapport du GIEC nous dit que nous avons 3 ans pour réagir. La construction d'une centrale nucléaire dure à peu près 15 ans, à moins de bâcler, et engendre de nombreux gaz à effet de serre. En effet, ça m'étonnerait qu'on les construise comme le château de Guédelon. Où est la logique ? De plus, d'ici 15 ans, rien ne nous dit que quelqu'un n'aura pas trouvé le moyen de produire une énergie réellement verte et pas chère, transformant ainsi nos centrales nucléaires toutes neuves en lignes Maginot. Beaucoup de béton pour une efficacité zéro. Bon, on pourra peut-être les recycler en abri anti-Poutine. Au revoir.
Je m'appelle Mélanie, j'habite à Selles. J'habite un village dans la campagne normande. J'assiste impuissante au lent et inexorable recul de la biodiversité dans mon jardin. Je participe à des comptages de crapauds communs à Pont-Audemer, initiés en 2017 par le parc naturel régional de Boucle de la Seine. Le crapaud commun est un être vivant très émouvant, avec des besoins très simples et très stables. Il naît dans la mare où ses parents sont eux-mêmes nés et toute sa lignée avant lui. Il ne peut vivre à plus de 500 mètres de son lieu d'éclosion. Je viens d'apprendre que la dernière prairie humide de la zone d'activité, où migrent et vivent au moins 18 espèces protégées par la loi, a été vendue par la commune et qu'un arrêté autorisant la destruction d'espèces protégées a été signé par le préfet de l'Eure. Une usine de découpe de viande chevaline d'Uruguay et d'abats français va remplacer la prairie. Un collectif s'est constitué et vous pouvez le soutenir en signant notre pétition qui s'appelle « Préservons les populations d'amphibiens de Pont-Audemer » sur change.org.
Bonjour, c'est Amaury, j'appelle de Berlin. Je vous appelais pour me plaindre d'une chose, c'est que j'entends tellement parler de la crise climatique. Alors je comprends que la crise climatique est importante et une catastrophe à venir, mais je suis un peu triste qu'on lui attribue tous nos maux. Je crois qu'Aurélien Barraud l'exprime bien. Les troubles dans lesquels nous sommes aujourd'hui ne sont pas vraiment liés à la crise climatique. Nous avons perdu 40 à 50% de la biomasse sur cette belle planète et c'est plutôt dû à l'occupation des sols par les humains, à ce que nous mettons dans les sols, les produits chimiques, puis aussi à l'extraction des ressources de la Terre. Et donc si nous combattons le carbone pour faire face à la crise climatique, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, il faut le faire, mais si nous ne faisons que ça, nous ne serons pas dans une bien meilleure position, j'en ai peur. Et donc, j'apprécierais beaucoup que vous fassiez une émission sur le sujet pour, bien sûr, ne pas dire que la crise climatique n'est pas importante, elle est importante, mais qu'il y a d'autres chantiers, d'autres choses très importantes dont on doit s'occuper si nous voulons vivre sur une terre avec nos amis, les plantes, les animaux, et vivre dans le bonheur. Merci.
Merci à vous pour vos messages et à Maury pour vous répondre. Je vous invite quand même à réécouter pas mal d'émissions qu'on avait consacrées, entre autres, à la biodiversité, dans lesquelles nos invités nous ont souvent rappelé l'enjeu majeur de mener de front la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et puisque vous nous parliez d'Aurélien Barraud dans votre message, eh bien j'en profite pour vous annoncer que l'astrophysicien écologiste qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans les médias fera son grand retour dans la Terre au carré. Notez la date dès maintenant, ce sera le lundi 9 mai, pour nous parler d'un livre d'entretien qu'il publie, livre autour de la révolution politique, poétique et philosophique qu'il souhaite, Aurélien Barraud. Donc 9 mai dans l'émission. Si vous avez d'ailleurs envie de lui adresser des messages, vous pouvez le faire dès maintenant sur ce répondeur au 01 56 40 45 45. Tarzan les avait utilisés comme technique de locomotion, mais je suis sûr que nos invités vont franchement vous déconseiller de l'imiter en vous balançant de liane, en vous déplaçant dans la forêt profonde, au-delà des prouesses du roi de la jungle. Les lianes représentent, vous allez le voir, des formes de vie végétale tout à fait fascinantes et nul besoin de vous rendre dans les forêts tropicales lointaines pour les croiser. Il suffit d'admirer d'ailleurs en ce moment les glycines en fleurs pour se convaincre de la beauté mystérieuse de ces plantes. Les lianes font l'objet aujourd'hui d'un livre, c'est passionnant et nous avions envie de vous en faire profiter en invitant ces deux autrices, Annick Schnitzler, Lenoble et Claire Arnold, qui ont parcouru le monde pour mieux les comprendre. C'est Liane, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue, Annick Schnitzler, vous êtes écologue et professeure honoraire de l'Université de Lorraine. Claire Arnold, vous êtes docteur en biologie, spécialisée dans l'écologie et la génétique des populations. Éloge des lianes, un monde méconnu, c'est donc cet ouvrage que vous publiez ensemble chez Actes Sud et qui nous raconte mille et une facettes de ces végétaux. On va découvrir avec vous que les lianes sont partout autour de nous, qu'elles font partie de notre quotidien, qu'elles ont des stratégies de vie et des relations tout à fait particulières avec la forêt. Et nous verrons aussi pourquoi ce sont des plantes qui sont très persécutées. On attend bien sûr les questions, les messages sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec les notes vocales. Dites-nous vous aussi ce que les lianes évoquent pour vous. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et j'ai passé une soirée hier, soirée avec les militants d'Emmanuel Macron d'un côté et soirée avec les militants de Marine Le Pen de l'autre pour parler écologie avec chacun d'entre eux.
Et puis l'émission est toute cette semaine dans son format normal puisqu'il n'y a pas de campagne pour la présidentielle. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au Carré réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Chantal Le Montagnier, avec à la technique aujourd'hui Sybille Clamins.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Bon voilà, ça c'est fait au moins, on vous l'aura fait au moins une fois dans l'émission, Tarzan au bout de sa liane, d'ailleurs Claire Arnold, il faut tout de suite dissiper le sujet, est-ce que réellement on pourrait se déplacer de liane en liane?
Malheureusement je crois que le mythe de Tarzan se balançant d'une liane à l'autre dans la forêt va tomber.
Ouais. Pourquoi, Annick Schlitzer, il ne serait pas possible justement de se balancer d'arbre en arbre?
Je pense qu'on est un peu trop lourd pour les lianes. Ouais. Cela dit, mes enfants, je les ai mis dessus, ils ne sont pas tombés.
Oui, parce que c'était des enfants.
Oui, c'était des enfants. Oui. Enfin, ouais. La liane, elle a une manière de s'accrocher qui reste quand même limitée.
Ouais. C'est surtout pour ça en réalité.
C'est surtout pour ça en fait.
Éloge des lianes, un monde méconnu, donc cet ouvrage qui paraît chez Actes Sud. Et c'est vrai que dès les premières pages de votre livre, on comprend à quel point on connaît mal, très mal ces plantes qui sont pourtant omniprésentes autour de nous. Il y en a même à la maison de la radio.
Hein,
vous les avez vues tout à l'heure en arrivant dans le hall. C'est ce que vous aviez envie de partager finalement, cette méconnaissance de ce monde?
Ben oui, on voulait un petit peu aussi rendre ce monde-là accessible à tout le monde, en le rendant le plus simple possible, et en prenant le temps aussi d'aller plus en détail dans un livre, parce que généralement les publications sont très ciblées, sont très spécifiques, très scientifiques, et on voulait ouvrir un petit peu ça au grand public.
Annick Schnitzler, comment est-ce qu'on devient spécialiste des lianes? Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez toutes les deux ensemble, vous dites d'ailleurs dans le livre avec les points, ça a été complémentaire pour vous, de croiser vos travaux. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez les lianes?
La première fois que j'ai vraiment vu les lianes, c'était pour ma thèse, donc ça fait plus de 20 ans.
Ouais.
Et c'est en parcourant les forêts alluviales du Rhin, Claire a fait les selles du Danube. Les forêts alluviales, ce sont celles qui sont inondées par les fleuves. Et là-dedans, comme la canopée est très ouverte et que le milieu est fertile, les lianes, c'est l'autoroute royale pour les lianes. Et la première fois que je suis rentrée dans cette forêt, j'ai été éblouie.
C'est vrai.
Je me souviens, j'étais avec mon fils Manu et il s'est balancé justement sur des lianes.
Ah ben voilà. Et il a fait son Tarzan.
Il a fait son Tarzan, mais il avait que 8 ans. Et je veux dire, ces draperies qui tombaient de partout, on savait pas d'où elles allaient, ça m'a vraiment fascinée.
Ouais.
Et à partir de là, j'ai débuté une étude sur les lianes, mais pas que. En tout cas, ça a fait beaucoup partie de ma vie.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Claire, qui a fait un parcours parallèle à moi.
Ouais. Et Claire Arnold, il y a assez peu de spécialistes de la question finalement?
Il y a assez peu dans le monde de spécialistes sur la question, parce que les lianes, en zone tropicale, c'est souvent les plantes qu'on essaie d'éviter parce qu'elles sont très très complexes, on les voit partir partout, c'est difficile à étudier. Nous, on a quelque part un peu l'avantage d'avoir commencé dans les zones plutôt tempérées. Moi, au travers de la vigne sauvage, venant d'un pays viticole, tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'ancêtre de cette plante vivait dans les zones infestées de moustiques, avec des inondations 2 à 3 fois par année. Et elle montait jusqu'à 30 mètres sur les arbres.
Ouais.
Donc voilà, on est rentré par le milieu tempéré qui est un peu plus simple. Et après, on s'est tourné vers le milieu tropical. Mais il y a des grands spécialistes des lianes aussi, eux-mêmes en France.
Ouais. Francis Allais, par exemple, hein, qui est un des grands spécialistes quand même sur cette question.
Oui, Francis Allais a écrit... D'ailleurs, il y a beaucoup de dessins de lui dans le livre. Mais il y en a aussi d'autres. Notamment, je voulais citer Guy Cabaye, qui est donc aussi de la même université de Montpellier et qui a fait un travail phénoménal dans les zones tropicales.
Ouais.
Et qui m'a d'ailleurs donné un beau profil.
Ouais.
Donc il y a des spécialistes en France et il y en a d'autres encore qui continuent actuellement dans les universités, notamment au sud. Mais si vous voulez, nous, on a essayé de démocratiser l'idée de la liane.
C'est ça. Et vous avez raison de le faire parce que elles sont là tout autour de nous. On va le découvrir au fil de l'émission. Vous parlez de la vigne, d'ailleurs. La vigne, c'est une liane.
La vigne, c'est une liane, oui. Et on s'en rend compte quand elle part un petit peu, quand on la laisse aller un peu où elle veut. Elle fait jusqu'à 5 mètres de longueur de sarment. Et finalement, je crois qu'il faut vraiment admirer le travail du viticulteur qui arrive à en faire franchement un bonsaï, parce que pour qu'elle produise plutôt dans le raisin que dans des feuilles et des sarments.
Et alors, c'est quoi la définition précise d'une liane, Claire Arnold?
Une liane, on a dû prendre une définition. Il y a plusieurs définitions de la liane. Ce qui est actuellement plutôt reconnu, c'est que la plante, elle reste toujours implantée au sol. Elle est implantée au sol et elle part de ce sol. Soit elle rampe, soit elle grimpe. Elle peut faire des réitéras, c'est-à-dire se réimplanter dans le sol, mais elle est ancrée toute sa vie, ou en tout cas une grande partie de sa vie. Donc ça élimine quelque part les épiphytes, c'est-à-dire ces plantes qui vivent sur les arbres, ou bien les hémiépiphytes qui grimpent le long des troncs depuis le sol et qui à un moment donné partent de ce sol.
Mais il y a quand même une sorte de notion de corde dedans, parce que je veux dire, une plante qui part du sol, on pourrait se dire un rosier, ça peut être une liane par exemple. Donc,
Mais le rosier est une liane.
Ah, le rosier est une liane.
Le
okay,
rosier
d'accord.
est une liane.
Mais la deuxième, c'est effectivement la stratégie de la liane, c'est de favoriser finalement le feuillage et d'économiser sur la fabrication du bois ou du soutien.
C'est-à-dire que l'idée du tronc, justement, c'est de se débarrasser du tronc de développer des feuilles, par exemple.
C'est ça. Alors donc, elle optimise la photosynthèse et limite l'obligation de pousser tout droit contre la gravité.
Ouais.
Et ce qui est important, c'est aussi toute la partie souterraine de la liane qu'on ne voit pas, mais qui peuvent s'enterrer jusqu'à 10 mètres de profondeur, chercher de l'eau. Les lianes ont besoin d'eau, et ça, on ne le voit pas. Et on a pris cette définition, justement, parce que la racine est quelque chose de très important pour les lianes.
Ouais, mais l'idée dont parlait Camille, de corde, effectivement, dans la tête de tout le monde, c'est la corde de la forêt tropicale,
dans la
liane.
Ouais, voilà, exactement.
Mais c'est pas ça, en fait. Enfin, pas que ça.
Parce qu'on en a, effectivement, on a ces racines qui descendent, mais ça, ce sont en fait des arbres, souvent des buissons épiphytes, qui germent au sommet des autres arbres et qui envoient leurs racines vers le sol. Et finalement, ils finissent par toucher le sol, mais ça prend quelques années. Et c'est à ces lianes-là qu'on peut se balancer. Généralement, les autres...
Je ne serai pas quand
même. On prend plutôt la liane d'à côté. Il y a des bas, c'est clair, mais on a dû se...
Non, c'est un peu arbitraire, c'est clair.
Ouais. Mais alors, est-ce que du coup, avec cette définition que vous nous décrivez, on trouve surtout des lianes quand même dans les forêts tropicales, ou est-ce que pas du tout, on peut les croiser n'importe où ailleurs?
Ah ben non, le maximum, l'optimum, c'est sous les milieux tropico-humides, parce qu'elles ont quand même des limites au niveau physiologique. Notamment, comme elles privilégient des petits troncs par rapport aux feuilles, elles ont aussi de très larges vaisseaux, parce qu'elles sont très très longues. Et le fait d'être très très longues, elles sont sujettes à ce qu'on appelle l'embolisme. C'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air qui peuvent passer. Et ça les tue. Comme chez nous d'ailleurs, quand on met de l'air dans les vaisseaux. Et ce qui les limite dans les pays trop secs, trop froids, etc. L'embolisme, c'est vraiment une délimitation pour la liane. Et ce qui est défini aussi la liane, c'est les stratégies de grimpe. Donc peut-être
ça, c'est génial. On va en parler dans un instant, parce qu'il faut prendre le temps de le faire. On doit faire une petite pause, mais ça, effectivement, la façon dont ces lianes s'accrochent autour de leurs hôtes, c'est absolument fascinant. Vous le décrivez très bien. On va parler également concombre, melon, vigne, hortensia, lierre, clématite. Tout ça, ce sont des lianes. Et on va le découvrir avec vous dans ce dossier de la Terre au Carré avec les questions des auditrices et des auditeurs.
De la nouvelle école et de l'ancienne, on cogne et on foque ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mots mais mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente et qui sera là si je déchante. Comme disait Duxaga la légende, les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme, négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir, j'alterne la lumière et le bon char. À ma piano. Regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano.
À ma piano, c'était Youssoupha et remercions Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
Il y a beaucoup plus de molécules actives dans les lianes que dans les arbres. C'est des plantes médicinales de premier plan. Une petite famille pratiquement pas connue qui s'appelle Ménispermacées. C'est une famille de lianes, elles sont toutes médicinales. Comme si le fait d'être liane ouvraient des possibilités sur le plan biochimique. Justement, elles font l'économie d'un tronc, donc elles ont de l'énergie en trop. Si j'avais un truc à lancer, je ferais une vaste campagne de recherche sur les lianes de canopée, mais il faudrait aller les étudier là-haut.
Ça, c'est en 2014, la voix de Francis Allais qui signe quelques-uns des dessins de ce livre Éloge des lianes chez Actes Sud avec ses autrices Annick Schnitzler, Lenoble et Claire Arnold. C'est vrai que les lianes dont il parle, donc, dans les pays tropicaux, les forêts tropicales et la canopée, c'est là qu'on trouve les lianes les plus impressionnantes en longueur.
Pas Annick forcément, Schnitzler. Parce qu'une des plus grandes lianes que je connaisse, c'est justement dans le sud, près de la Camargue, où il y a une vigne échappée, probablement américaine, qui couvre au moins 100 mètres le long de l'autoroute. Par contre, ce qui correspond aux métabolites secondaires, c'est absolument fascinant, on peut en parler maintenant. Les métabolites secondaires servent surtout à protéger la liane contre les agressions liées, parce qu'elles cassent facilement quand elles montent sur un porteur, souvent le porteur tombe.
Donc l'arbre, hein,
l'occurrence. Oui, l'arbre, ou alors le buisson ou les branches, et elle se casse, et à ce moment-là, comme elle a des larges vaisseaux et un petit tronc, elle s'ouvre et elle casse facilement, et elle est tout de suite envahie par des pathogènes qui peuvent être des toutes sortes, des champignons, des micro-organismes. Et elles se sont inventées, c'est leur propre médicament.
Elles se soignent elles-mêmes, alors?
Tout le monde le fait, mais elles le font justement de manière particulièrement efficace. Peut-être parce que, comme dit Francis, elles font l'économie ailleurs du tronc.
Et comment elles se soignent, alors, les lianes?
Eh bien, en général, c'est des antiseptiques, des antibiotiques, des molécules extrêmement complexes qui sont étudiées en... Donc, ouais. Claire, tu peux peut-être parler un petit peu de cette médecine liées aux lianes.
Mais souvent, ces lianes, elles sont utilisées aussi par l'humain, par les animaux aussi, pour se soigner. Donc, elles se soignent elles-mêmes, mais elles soignent aussi les autres animaux.
Enfin, elles ne le font pas exprès. Hein, quand
même. Et elles ont souvent non seulement un côté leur beauté, elles sont belles, mais elles sont utilisées pour les fruits, elles sont utilisées pour la médecine.
Ouais.
Et bon, je prendrais par exemple un autre exemple, c'est l'Andolphia, qui est une liane par exemple d'Afrique, et qui était, on l'oublie parfois, jusqu'au début du XXe siècle, c'était la source principale de caoutchouc.
Oui.
Mais en même temps, cette liane, elle a des fruits, ces fruits sont mangés aussi par les primates, mais aussi par l'humain. Elles ont beaucoup de vitamines A, C et K. Elle a même des vertus anti-diabétiques. Elles ont des vertus anti-hypertensives. Donc, il y a encore tout un monde aussi à explorer.
Il y a une pharmacopée des lianes, on pourrait dire les choses comme ça. Et les primates en mangent beaucoup, c'est ce qu'on apprend dans votre ouvrage.
Une question de Valérian sur franceinter.fr. Il demande si la viouche, non scientifique, Clématis vitalba, est une liane. En tout cas, écrit-il, ça y ressemble. Et pour m'y être accroché, pour les enlever, aucun souci pour se tenir mes 80 kilos, plus les 80 kilos de mon beau-père, totalement possible d'y faire le Tarzan, Annick Wiesler le Noble. Alors la viouche,
Je ne sais pas, je la connais bien puisqu'elle est dans les forêts alluviales du Rhin.
C'est une liane ?
Oui, bien sûr, c'est une liane. Il l'a vue tout de suite. Ça se voit facilement, elle pend de partout. Mais bon, moi, je ne m'y serais pas risquée parce que j'ai vu d'énormes paquets de clématites le long du Rhin s'effondrer d'un coup au sol. Ouais. Et ça fait, c'est quand même assez dangereux. Mais bon,
ouais, donc faire attention.
C'est peut-être une espèce cultivée qu'il a là-bas.
Claire Arnold ?
Mais en plus, ce qui est marrant avec la clématite, c'est que apparemment dans l'est de la France, on l'appelle la liane. On l'appelle la liane. Et il semblerait que ce soit les premiers colons qui soient partis du côté des Antilles, qui en arrivant sur place ont vu toutes ces lianes et les ont appelées les lianes. Et après, ça a été repris par les anglophones. Et donc, il semblerait même que le terme de liane vienne du nom de la clématite. Des noms de la clématite.
Une autre question. Anne voudrait savoir si le lierre est une liane et j'ajoute une question, enfin plutôt un message de Thierry qui demande de laisser le lierre tranquille. Cette plante, selon les régions, est la dernière source de pollen et de nectar des insectes pollinisateurs avant l'hiver.
Ah, c'était une discussion en rentable avec Annick Slitzer, parce que je disais, moi j'arrache le lierre. Elle disait, mais mon Dieu, surtout pas.
Donc déjà, le lierre est une liane.
Oui,
déjà,
bien sûr.
Et on ne l'arrache pas alors.
Il a été longtemps arraché, notamment dans les forêts. Là où il y en avait, parce que ça, évidemment, ça altère sans doute la qualité du bois, ou ça, pour des raisons X ou Y. Mais depuis, les forestiers, en tout cas dans ma région, ont compris l'intérêt si vous voulez, pas la symbiose, mais le mutualisme entre cette liane qui est le lierre et le porteur. Et maintenant, ils les protègent. Au contraire, ils les protègent contre ceux qui essayent de les couper.
Ouais.
Mais cela dit, je sais pas si on va en parler maintenant, mais la relation entre l'arbre, le porteur et la liane est quelque chose de très complexe.
Ouais, on va en discuter tout à l'heure. Mais justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que la liane a toujours besoin justement d'un porteur pour se déployer ou se fixer? Parce qu'on imagine toujours la liane à la verticale, mais elle peut ramper aussi sans forcément avoir besoin d'un tronc.
Oui, bien sûr, la stratégie de colonisation, elle est souvent horizontale. Et bon, pour le lierre par exemple, il est très très souvent au sol, et quand vous allez vers l'est de l'Europe, eh bien il arrive même plus à grimper aux arbres, il a plus assez d'énergie solaire.
C'est ça.
Mais quand il est au sol, il cherche quand même à remonter, quoi.
Ouais. Claire Arnold là-dessus.
Il peut rester très longtemps dans le sous-bois et attendre une opportunité pour aller vers la lumière.
Ouais, alors c'est
ou
ça, le trouer. Ça aussi, vous le décrivez, la jeunesse de la liane. Et vous dites finalement, une liane jeune peut attendre extrêmement longtemps avant de s'engager justement sur son porteur et se déployer et là devenir adulte. Donc il y a vraiment quasiment une stratégie d'observation du milieu.
C'est connu quand même, c'est extrêmement connu.
Ah ben excusez-moi, moi je ne le connaissais pas.
Alors non,
je
pose les novices, on vous rappelle. Hein.
mais ça dépend un peu des formes aussi de lianes. Certaines lianes supportent très bien de rester à l'ombre très longtemps. D'autres ont besoin de beaucoup plus de lumière, sont un peu plus impatientes quelque part. Et ont aussi, certaines, la capacité de grimper, alors que d'autres se laissent plutôt entraîner vers la canopée.
Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a choisi un porteur, donc un tronc par exemple d'arbre, est-ce que la liane peut choisir de le quitter pour aller ailleurs, ou est-ce que finalement c'est définitif?
Oui, quand elle arrive sur un porteur, ça dépend aussi justement des stratégies de grimpe, mais souvent les lianes passent d'un porteur à l'autre, c'est certaine, et elles redeviennent horizontales, mais au niveau de la canopée, c'est ce que disait Francis Allais, c'est encore à explorer.
Ouais.
Donc elle peut monter, être verticale, horizontale, sans arrêt, par des réitérations comment est-ce qu'on pourrait dire simplement?
Mais on vous a compris.
C'est bon.
C'était très clair.
En tout cas, c'est une espèce de colonisation de manière horizontale, oblique et verticale, voire qu'elle redescend et elle remonte sur un autre tronc.
Très bien.
C'est extrêmement surprenant pour c'est les seules plantes qui fassent ça, quoi.
Et les stratégies de grimpe, hein?
Je vais laisser parler Claire, elle est tout à fait passionnée par le sujet.
Ah, les stratégies de grimpe, alors
c'est fascinant. Hein.
C'est fascinant, qu'en plus, certaines stratégies de grimpe ont été développées dans des familles qui sont très très éloignées génétiquement. Elles ont elles ont développé les mêmes moyens pour monter. Donc il y a bien sûr la majeure partie des lianes, tout de même, il faut le noter, sont sont des lianes d'appui, c'est-à-dire qu'elles se reposent sur la végétation ou elles grimpent en mettant leur sarment dans le branchage de leurs hôtes.
Vous citez le bougainvillier, par exemple, dans ces cas-là ?
Alors, le bougainvillier, ça, c'est encore autre chose.
Sur l'appui, en tout cas.
Parce qu'il y a... Oui, et dans les lianes, parfois, c'est ce qui est surprenant, c'est que dans certains endroits du monde, elles se comportent comme des lianes, et dans d'autres endroits du monde, elles peuvent, si on les ramène ailleurs, elles deviennent des buissons. Il y a aussi peut-être une partie de génétique, parce que certaines plantes, on l'a remarqué, lorsqu'elles sont dioïques, sont plutôt lianescentes, et lorsqu'elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire que lorsqu'elles ont le sexe mâle et femelle dans la même, sur le même individu, elles sont plutôt autoportantes.
Alors Claire Arnold, moi je vais vous citer, hein. Il y a le simple enroulement de l'axe principal par exemple, bon ça donc la liane s'enroule, elle s'appuie, il y a les épines ou les aiguillons, il y a les vrilles avec des griffes, il y a des pelotes adhésives et il y a les crampons. Hein. Donc tout ça, ça existe.
Oui, exactement.
Il y a toute cette panoplie à disposition.
Oui. Et en plus, dans les vrilles, alors là, on a toutes sortes de panoplies de vrilles. On a les fleurs, les pédoncules qui s'enroulent. On a les feuilles, les sommets des feuilles qui s'enroulent.
Ouais.
Et puis...
Mais les crampons, c'est impressionnant. Hein, quand on essaie justement d'arracher un lierre, on se rend compte à quel point il y a une force.
Les crochets, c'est pas mal. Hein,
si les crochets, oui, c'est ça.
Et quand j'étais au Gabon et qu'on traversait certains buissons, ils vous accrochent là, comme ça, au bout des feuilles. C'est quelque chose.
Et en fonction de quoi ils développent tel ou tel outil? Alors, pourquoi des crampons d'un côté, vrilles de l'autre?
L'évolution.
L'évolution. L'évolution.
Souvent, c'est lié aux habitats qu'ils colonisent. Globalement, on peut dire que les racines adventices, c'est plutôt un seul tronc et une verticalité. Les vrilles, c'est plutôt de manière latérale, mais c'est très discutable.
Et l'enroulement, par exemple, ça peut être très lâche, ou au contraire, ça peut carrément étrangler l'arbre. Donc, il y a différentes façons.
Attendez, là, vous tombez dans du négatif, attention.
Ah, mais il y en a dans votre livre du négatif.
Oui, mais pas l'enroulement. Mais l'enroulement, toutes les lianes s'enroulent, en fait, plus ou moins, parce qu'elles ont des axes souples, plus ou moins, comme vous dites.
Et puis, l'enroulement, il varie aussi. On trouve, par exemple, dans les forêts vraiment matures où il y a des grands arbres, l'enroulement n'est pas capable de se faire autour d'un gros tronc. Donc, c'est plutôt des forêts avec des axes très fins. Et cet enroulement, d'ailleurs, a été étudié déjà depuis très longtemps. Même Darwin s'y était intéressé.
Ouais.
Et puis, ça amène à des choses très pratiques. Ne fût-ce que pour le diamètre des fils pour le houblon, pour cultiver le houblon.
Ouais.
Eh bien, ça permet une récolte. Parfois, on achète juste des tuteurs pour le jardin, pour planter des petits pois. Ben, ce tuteur, il a un diamètre qui permet à la plante de s'enrouler et qui est calculé pour qu'on puisse facilement récolter les fruits.
Eh ben, on va y revenir dans un instant par leurs petits pois, concombres et bien d'autres encore à l'occasion de la sortie de ce livre. Éloge des lianes, ce monde méconnu chez Actes Sud.
France Inter. La Terre au carré.
Car c'est l'heure de Camille Passauvert à 14h32, Camille Cronier.
Et je vous parle de la présidentielle, moi, aujourd'hui, parce que même si l'écologie n'était pas l'apanage des Verts, vu la tôle qu'ils se sont pris avec d'autres, j'ai voulu vérifier auprès des finalistes si le sujet pouvait encore compter. Donc j'ai passé ma soirée avec les militants d'Emmanuel Macron et avec ceux de Marine Le Pen. Première question, pour voir donc si limiter le réchauffement climatique ressort des discours. Quelle doit être la priorité des priorités? Réponse côté macroniste.
Pour moi, c'est l'économie, le pouvoir d'achat et la relance.
La santé, l'éducation aussi.
L'Europe, emploi.
La rémunération du travail.
Continuer la baisse du chômage.
Le pouvoir d'achat.
La justice, l'Europe et évidemment l'écologie.
Ah, la priorité des priorités, je pense qu'elle est économique. Après, elle est aussi sur l'écologie.
Voilà, donc beaucoup d'économie, mais ça apparaît quand même. Réponse côté lepéniste maintenant.
Pour moi, la priorité, c'est le bien-être de chaque personne, de chaque Français.
Le pouvoir d'achat et l'immigration.
Le pouvoir d'achat, ça c'est clair.
Le pouvoir d'achat des Français.
Le pouvoir d'achat, l'économie et puis la santé.
La priorité des priorités pour moi, c'est d'arrêter l'immigration de masse.
Le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, l'immigration, ça fait beaucoup de sujets sur la table.
Le climat qui compte.
Le climat, on l'a entendu, hein, finit par sortir timidement. Et écoutez, pourquoi cette dame, par exemple, ne le place pas en tête?
Pourquoi faire une fixation là-dessus? On est déjà très bon, on a très peu d'émissions à effet de serre en France, parmi la part mondiale de la France dans l'émission à effet de serre, c'est ridicule. Mais on est déjà très très bons élèves.
Et puis d'autres pays polluent plus que nous, hein, je l'ai entendu ça aussi du côté de Marine Le Pen, côté macroniste. Et au moment où la salle écoutait la déclaration de Yannick Jadot à la télé...
L'écologie,
Oui, c'est une priorité, mais pour moi, ce n'est pas la première priorité, vous m'excuserez. Non, je pense que la priorité, c'est de préserver ce qui faisait la France, un pays des droits de l'homme, avec des valeurs, et la lutte contre l'insécurité, contre les violences.
Mais dans les deux camps, on se dit pourtant plus écolo qu'écolo.
En tant qu'électeur d'Emmanuel Macron, je pense qu'on a une sensibilité écologique, ça c'est clair. Beaucoup plus que sa principale adversaire, voilà.
Et en face,
on est à fond écolo.
C'est là la vraie écologie.
Ça veut dire que les plus écolos, ce seraient les militants du Rassemblement National ?
Ah oui, moi franchement je le pense, hein. Sincèrement.
Alors voyons maintenant les arguments. Hein. Pourquoi les militants d'extrême droite s'estiment-ils même plus écolos que les Verts ?
Non, c'est pas l'écologie punitive.
On défend, je pense, et j'en suis même certain, le modèle le plus écolo qui est localisme. C'est-à-dire produire à proximité, retraiter à proximité.
Et en sachant que les importations sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre en France, je pense que Marine Le Pen est la mieux placée. Ouais.
Mais les adversaires marcheurs, eux, pensent bien sûr que c'est le président sortant le mieux placé. Et cela malgré le fait que l'État, je le rappelle, soit attaqué en ce moment pour inaction climatique.
Porter toute la responsabilité et la charge de ce qui se passe aujourd'hui sur cette question-là, sur sa faute, c'est un peu exagéré.
Je trouve qu'Emmanuel Macron est vraiment porteur de cet espoir, vraiment.
Rappelez-vous, au début de son mandat, il a quand même fait voter une loi pour interdire les plastiques. Je pense qu'aujourd'hui, les océans nous disent merci.
Bah oui, ils disent merci, les océans, sauveurs des océans. Et des choses à amplifier et accélérer, les macronistes le disent aussi, mais sans vraiment changer notre modèle économique, ils veulent combiner écologie et croissance.
Je pense qu'il est quand même très compliqué pour des pays développés comme les nôtres, qui sont les pays européens, de revoir complètement notre système de vie et de pensée. Je ne crois pas à la décroissance ou à ces discours-là. Je pense qu'on doit aller quand même dans la croissance et qu'on doit quand même créer de l'emploi, qu'on doit créer une économie forte et qu'on peut allier tout ça avec une écologie forte.
La fameuse croissance verte, hein, ils ont tous en tête aussi, faut le dire, l'échec de la taxe carbone avec les gilets jaunes. Chez Le Pen, certains pensent avoir la formule magique pour réduire les gaz à effet de serre.
Plus de produits bio fait made in France, et puis je pense que l'écologie sera, le problème climatique sera réglé.
Je pense qu'en recherchant, en mettant beaucoup d'argent dans l'innovation, dans la recherche, eh bien on trouvera la solution pour sauver notre planète.
Et oui, l'innovation, la technologie, figurez-vous que c'est un thème sur lequel les deux électorats se retrouvent, comme le développement du nucléaire d'ailleurs, macroniste.
L'innovation est fondamentale, on l'a vu avec la construction de ces petits réacteurs nucléaires qui va constituer un des axes fondamentaux demain. Je pense que c'est l'innovation est fondamentale face aux enjeux qui sont les nôtres.
Le péniste.
C'est la fusion nucléaire qui pourrait, à terme, éradiquer, je pense, pendant très longtemps, pendant plusieurs générations, les questions d'énergie qui seront plus un problème, les questions d'émissions de gaz à effet de serre qui seront plus un problème non plus. Je pense qu'il faut investir dans l'innovation.
Mais aucun des deux camps ne compte prioritairement, vous l'aurez compris, sur un levier de base, émis en avant la semaine dernière par le GIEC, à savoir la sobriété, réduire nos consommations individuelles d'un côté et pousser les entreprises à moins produire de l'autre. Là encore, ils se retrouvent en assimilant la chose à une forme, on va dire, d'âge de pierre. Les 5 ans à venir diront si le chemin est le bon, puisqu'ils vont être déterminants aussi bien en France que sur la planète tout entière.
Merci beaucoup Camille Cronier, c'est à réécouter cette chronique évidemment sur franceinter.fr, à la page de la Terre au Carré.
Annick Nisler, Le Noble, ça vous fait réagir ?
Bien sûr, je pense que... Je suis un peu consternée par ce que j'entends. Je pense qu'il faudrait effectivement passer, comme vous venez de le dire, par la sobriété avant toute autre chose, plutôt que tout le temps penser à la croissance et au gaspillage, surtout, tout ce qu'il y a derrière. Mais enfin, c'est un vaste débat, évidemment.
Quel est le meilleur candidat des lianes, alors, Annick Schlinzer ?
Moi, de toute façon, je vote vert depuis 40 ans.
Claire Arnold, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ? Vous êtes suisse, hein ?
Moi, je suis suisse, donc je peux rester neutre.
La fameuse neutralité suisse. Elle botte en touche. Allez, on parle des lianes. C'est le sujet qui nous amène aujourd'hui.
Elle est d'accord avec moi.
Et là, vous cafetez. Un monde méconnu chez Actes Sud.
Je l'assume.
On se retrouve dans un instant.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but
Nova, c'était la voix de Billie Eilish.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
La vigne à l'état sauvage, c'est une liane. Et la liane dans les bois, c'est de la vigne à l'état sauvage. Donc la vigne à l'origine, c'est le long des rivières et c'est dans les forêts. Nous, on l'a mise dans les coteaux au sud en densité. La liane, elle fait 30 mètres de long et il y a 5-6 grappes. Aujourd'hui, la vigne, elle fait 1 mètre de long. Le bras qui porte le fruit, fait même pas 1 mètre. Il fait 70 cm et il y a 12 grammes. Et en plus, elle est greffée. Donc déjà, on a tellement perturbé son milieu naturel que forcément, elle fait de la maladie. On peut pas aller contre. On est dans un tel stress, c'est comme si on met un être humain dans un milieu qui est complètement hostile, donc ou bien à la grosse chaleur ou au froid, ou dans une zone dans laquelle il ne convient pas du tout, dans une cage. Il dépérit, quoi. C'est vraiment un dépérissement. Et la vigne, en fait, c'est un dépérissement permanent.
C'était la voix de Cyril Copier, viticulteur à Die, dans la Drôme, en 2016, dans un documentaire qui s'appelle « Le sauvage et le domestique » de Caroline Fontana et Jean-Pierre Vaiorani, qui a fait réagir, entre autres, Claire Arnold, puisque vous aimez beaucoup les vignes, justement, vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage. Est-ce que la vigne, donc, c'est une liane hyper stressée? On pourrait résumer les choses comme ça?
Oui. Ouais. Oui, effectivement, parce que moi, ça a été un choc quand je l'ai découvert vraiment dans son milieu naturel. Où elle était vraiment jusqu'à 30
libre.
Mètres, comme il le
voilà,
dit. Elle part dans tous les sens, et nous, on en fait un petit buisson. Dès qu'il y a 2-3 bourgeons qui sortent, ouais. On est bourgeonne. Donc c'est un travail continu pour arriver à garder cette liane et la dominer.
Vous parliez d'un bonsaï tout à l'heure. Hein.
C'est un bonsaï.
En fait, l'image est assez bonne, je trouve. Ouais. Camille, il y a beaucoup de messages sur les lianes.
Allez, je commence avec Alain et Isabelle. Alain demande, quand le lierre envahit l'arbre au point de lui prendre sa lumière, l'arbre finit-il par mourir? Et Isabelle enchaîne, expliquez-nous en quoi un lierre qui s'enroule autour d'un arbre est bénéfique pour lui. Je vois beaucoup d'arbres qui meurent étouffés après plusieurs années. Je trouve ça très triste. Les arbres me semblant vraiment être à protéger avant tout. Alors, Annick Schnitzler-Lenoble, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas parler négatif, mais est-ce que finalement tout ça se fait en bonne entente?
Vous savez, ils coexistent depuis très très longtemps, les arbres et les lianes. On a au moins depuis à peu près 250 millions d'années. Donc, si l'un avait tué l'autre, il ne serait plus là. Donc, il y a forcément des bénéfices réciproques dans les deux. Concernant plus spécifiquement le lierre, il est vrai que le lierre qui colonise un arbre, d'abord, ne lui prend pas la lumière parce qu'il reste le long du tronc et que les feuilles se trouvent à l'extérieur. Mais si l'arbre est déjà malade et qu'il perd ses feuilles et qu'il est en mauvais état de santé, le lierre s'étend. Mais globalement, les côtés, si on peut commencer par les côtés négatifs, un arbre isolé couvert d'un lierre qui est déjà pas en bonne santé, il tombera plus vite. On a fait une étude dans les forêts du Rhin avec des arbres à lierre et des arbres sans lierre. On a constaté que les arbres avec des lierres tombaient un peu plus que les autres. Et le lierre meurt avec l'arbre. Donc je vois pas l'intérêt qu'a le lierre à supprimer le porteur.
Vous dites les lianes sont les formes de vie végétales les plus persécutées au monde en raison de cette mauvaise réputation, justement.
Oui, c'est sûr. Hein, c'est Mais ça. Je voulais dire que pour répondre à ce à cet auditeur, c'est que en fait, le lierre, on a aussi prouvé que le lierre apportait beaucoup à son porteur, notamment avec une litière qui est extrêmement riche en éléments minéraux, et que l'arbre récupère après. On retrouve les éléments minéraux du lierre dans l'arbre, dans la sève et dans les feuilles. Donc il y a vraiment une coexistence entre les deux. Mais il faut dire que dans un sens comme dans l'autre, dans des situations un peu stressantes, ça peut être le lierre qui gagne ou l'arbre qui gagne. Moi, si j'ai un lierre dans mon jardin, bah, je ne le couperai jamais. Hein,
bah ça, bon. On a compris. Hein. Je me suis fait engueuler tout
il
à l'heure.
Il s'est fait engueuler, Mathieu. Oh là là. Ça, c'est sûr.
Il ramène des oiseaux, il nourrit les grives, et l'arbre n'a qu'à bien se tenir. Ou alors
je vais
se
avoir une autre attitude grâce à vous. Je ne regarderai plus Méliane de la même manière.
Je continue sur les questions négatives. Après, promis, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins négatives. Mais Nicolas, qui nous écoute de Martinique, nous dit qu'il, là-bas, ils ont des épiphytes jaunes qu'ils appellent spaghetti, collants et étouffants. Que faire, demande-t-il ?
C'est pas le sujet.
C'est les cuscutes.
Quoi, c'est pas des lianes ?
Non, les épiphytes, c'est pas des lianes.
C'est les cuscutes, je pour résume.
Pas forcément. Il faut qu'il
y ait des
lianes. Là, il y a la vidéo de l'arbitre.
Non, donc, mais les épiphytes, c'est pas ce qu'on a étudié.
Donc ça, ce serait plutôt des épiphytes. C'est oui.
Bah, donc, il dit c'est on les appelle spaghetti. Donc bah, désolé,
ou
Nicolas,
alors, c'est du gui, mais dans ce cas-là,
il y a pas de gui là-bas.
Nicolas, on vous refera une émission rien que pour vous sur les épiphytes.
Jean-Paul, lui, voudrait savoir si certains légumes peuvent être considérés comme des lianes. Par exemple, dit-il, les courgettes, les légumes grimpant, et quels sont les autres légumes des lianes? Alors, Claire Arnold.
Ah bah là, on peut partir sur un menu, on y
allez.
Va allez, on ouais. y va sur un menu. Alors, déjà, au niveau des boissons, on va peut-être prendre soit un verre de vin ou un verre de bière. Si
donc
on prend
vigne,
un verre de vin, on a la vigne, si on prend la bière, on a le houblon. Si on n'aime pas les boissons alcoolisées, on peut prendre un jus de fruits de la passion, par exemple. Et donc,
ou de kiwi.
Ou de kiwi, exactement. Le kiwi, c'était effectivement aussi une liane. Après,
légumes.
Au niveau des légumes. Alors déjà la tomate, parfois on a tendance à l'oublier, parce qu'au fait aussi, la tomate, on la voit plutôt sous forme de buisson. Mais à la base, c'est une liane.
Les courgettes, alors il demande Jean-Paul.
Alors, les courgettes aussi.
Ah bon
Les cucurbitacées, tout
c'est toutes les, quasiment toutes les cucurbitacées. D'ailleurs, on voit, elles ont des petites vrilles, d'ailleurs. C'est vrai qu'elles vont plus souvent le long du sol. Mais même la pastèque, on a...
Le concombre,
le
du
concombre,
coup.
Exactement, les cornichons. On a les courges, petite soupe de courge, c'est sympa. Et puis, surtout, on les assaisonne. Et on les assaisonne avec quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc, on mange de la liane, en tout cas tous les jours, c'est le poivre. Le poivre est une liane, le poivre noir.
Ah ben, à propos de poivre, tiens, on a Jean-Paul, un autre Jean-Paul qui nous écoute de Madagascar et qui nous demande de parler de la vanille, là, cette fois.
Oui, là, on a...
C'est une liane ?
Oui, bien sûr, c'est une liane qui a une grande histoire, puisqu'elle a été exportée dans le monde entier. Et puis, là où on l'a exportée, on n'a pas ramené en même temps le pollinisateur. Donc, c'est l'homme qui la pollinise elle-même. Mais là, effectivement, la vanille est une liane extrêmement connue.
Elle est
tellement cultivée que... Ouais. Moi, j'en ai vu à l'état sauvage, mais on en trouve beaucoup à l'état cultivé.
Mmh. Est-ce que ça pousse vite, d'ailleurs, une liane? Parce qu'on a le sentiment, justement, que dès qu'on les laisse en liberté, ça envahit absolument tout. Il y a une rapidité dans la croissance,
oui,
ou pas?
Globalement, elles ont un très grand dynamisme. C'est ce qu'on disait avant. Dès qu'elles ont la lumière, l'espace, et surtout les éléments minéraux et l'eau, elles ont le dynamisme le plus élevé, je pense, de toutes les plantes. De manière absolument fascinante, notamment dans les pays tropicaux.
Et donc ça peut donner quoi, alors, par exemple?
Ça tapisse
dans
le
les
sol.
Exemples les plus impressionnants.
Celui que j'ai connu le plus impressionnant, c'est celui que j'ai vu au Vietnam, où j'ai passé dans une partie avec des milliers d'hectares sinistrés par l'agent orange où il n'y avait que des hippomées. Donc on ne pouvait pas cultiver à cause du sol toxique. Je ne sais pas, c'est un Vietnamien qui a dit « Regardez, on ne peut rien faire ». Et c'était des vallées entières couvertes des hippomées, peut-être autre chose.
Donc les lianes aiment l'agent orange, en fait, ce que vous dites.
Si vous voulez, elles sont capables de supporter des toxicités fortes. Et je suis aussi allée du côté Bélarusse à Tchernobyl, mais du côté Bélarusse, et j'ai vu des maisons croulant sous les houblons ensauvagés, alors que on penserait pas. Bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de vie dans les milieux contaminés par le nucléaire. Mais les lianes sont particulièrement présentes aussi.
Grosse capacité d'adaptation.
Oui, c'est ça. Mais je sais pas combien de temps elles vivent dans ce cas-là, on sait rien, en fait. Je veux pas dire que maintenant, n'allez surtout pas croire que je suis pour le nucléaire, pour les lianes. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que j'étais frappée par le dynamisme dans des situations où peut-être d'autres espèces n'arriveraient pas.
Est-ce que ça pourrait dépolluer des sols particulièrement, justement,
il faut pas faire
toxiques
du nucléaire,
ou pas
c'est
du...
tout.
Non, mais hormis la question du nucléaire, mais je sais que par endroits, on cherche justement à utiliser des plantes pour dépolluer les sols.
Je pense qu'il y a mieux avec des espèces avec des gros rhizomes, comme la renouée ou des choses comme ça. C'est plus efficace, je pense. Mais qu'est-ce qu'on fait des rhizomes après? Parce que les produits sont là. J'ai pas la réponse.
Par contre, c'est un bon puits de carbone, la liane aussi, hein, dans la forêt.
Peut-être.
Vous dites que ça a un rôle qui n'est pas négligeable.
Ça, on l'a beaucoup étudié avec Claire, donc en Martinique. Tu peux en parler un petit peu du rôle de pansement de la forêt.
Oui, parce que justement, les lianes, on s'est rendu compte et on se rend compte actuellement, et c'est pour ça que les recherches redémarrent un petit peu sur les lianes, c'est qu'elles ont tendance à couvrir et à s'épandre, et notamment dans toutes les zones qui sont ouvertes, dans les friches. En Martinique, ce qu'on a observé, c'est que justement, on a eu l'occasion d'aller avant le passage de l'ouragan Dean, et on était dans une forêt tout à fait classique, où il y avait des grosses lianes, quelques grosses lianes, et juste après est venu l'ouragan, et là, ça a été une explosion. On nous a rappelé, on dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lianes partout. Et en 6 mois, elles ont colonisé tout. Et on est arrivé à cette idée que les lianes sont vraiment un peu le pansement de la forêt. Mmh. Elles vont tapisser toutes les zones ouvertes, les clairières, lorsqu'un arbre tombe, il y a une sorte de rideau de lianes qui va se faire, qui va protéger quelque part le sol, qui va éviter aussi l'érosion du sol, qui va empêcher une trop grande intensité lumineuse, qui va empêcher le vent de pénétrer dans le sous-bois et de détériorer le sous-bois des forêts.
Le pansement de la forêt.
Pour moi, c'est un pansement de la forêt.
Et finalement, où est-ce qu'on ne trouve pas de lianes?
Je voulais juste ajouter quelque chose à propos de cette histoire de pansement. On voyage beaucoup, Claire et moi, et j'ai fait un voyage il y a quelques années, notamment avec mon frère Patrick Lenoble, qui a illustré le livre et qui a pris de très belles photos, justement, de la forêt de Bornéo, où on était à Deramakot. Et on voit très bien que là, c'est pas les tempêtes qui ont décimé la forêt, mais des coupes forestières intensives. Et là, on voit tout de suite que la forêt, on le voit de loin, que dès qu'il y a des coupes forestières intensives, il y a une espèce de rideau continu.
C'est vrai.
Il l'a très bien montré dans certaines photographies du livre, où on voit des espèces d'aspects fantomatiques de la forêt tropicale, qui sont liés donc à cette ouverture excessive et ce pansement. Donc, ces illustrations sont assez difficiles à faire. Je l'ai vu aussi en Guyane. Il y a même des forêts de lianes qui se mettent après un certain nombre de coupes. Donc, c'est un rôle extrêmement important que ce rôle des pansements.
Bon, je la refais. Et finalement, où est-ce qu'on ne trouve pas de lianes?
Camille Cronier, deuxième.
Dans les mangroves. Dans les dunes, elles sont très rares. Tout ce qui est accumulation de stress trop important, par exemple les dunes, vous avez à la fois le salé, l'eau douce qui est rare, le vent qui dessèche, l'enfouissement par le sable, etc., etc. Les zones trop froides où l'embolisme joue à plein.
La liane de l'Antarctique, on l'a pas encore trouvée alors.
Si.
Attendez, en Patagonie, on en a.
Ah.
Je suis allée en Antarctique et j'ai passé le bateau pour aller jusqu'en Antarctique, et en passant, j'ai vu donc les dernières lianes sur le dernier morceau de rocher avant d'arriver en Antarctique. Il y a une liane.
Avant l'Antarctique. Attention, soyons précis, Madame Schnitzer. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous pour évoquer les lianes cet après-midi dans la Terre au Carré. C'était Barbara Carlotti.
France Inter. La Terre au carré.
Claire Arnold qui s'étonne d'avoir autant de questions au sujet des lianes. Mais
ça
oui, on
pas,
croule.
Je croule.
Sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au carré, il y a plein d'auditeurs qui s'intéressent
d'ailleurs,
aux lianes.
D'ailleurs, il y a Eric qui répond à notre auditeur de Martinique tout à l'heure. Il fait certainement allusion, dit-il, à Couscouta Americana, localement appelé le vermicelle. Ça vous particulièrement
oui,
envahissant, ça vous parle?
Oui, mais on les a exclus de la.
Bon, elle est toujours pas dans les lianes. Ok. Luc, lui, voudrait savoir si le liseron, quand il monte, tourne toujours dans le même sens, et ce, quel que soit l'hémisphère où il se trouve.
On n'en sait rien.
Bon.
Pas.
Il faut continuer les recherches.
Voilà.
Voilà. On n'a pas fini notre menu tout à l'heure, Claire Arnaud. Oui. Allez, en quelques mots, il nous manquait quand même quelques ingrédients.
Alors, il manquait la patate douce.
C'est de la liane.
Il nous manquait le melon, la framboise, et on oublie toutes les ronces. Hein, framboise, mûre,
mûrier,
mûrier.
Ouais.
Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore?
Haricots,
le manioc.
Le manioc. Voilà, tout ça,
et
c'est de la liane.
Et les haricots.
Ouais.
Et oui.
Haricots, donc par exemple, on connaît très bien cette histoire de Jack et le haricot magique. Donc, il y a une forme... vous dites éloge des lianes, vous dites parfois elles sont mal vues, mais pas que, visiblement.
Non, pas que. D'ailleurs, Francis Allais n'est pas trop d'accord avec nos idées. Lui, il trouve que les lianes, on les aime bien. Et moi, je crois qu'il ne voit pas tout, là. Il ne voit pas les gens qui luttent contre les lianes.
Oui, c'est ça. Mais parce qu'on ne sait pas que ce sont des lianes, au fond.
Oui, c'est ça.
Mais il y a une symbolique, quand même, dans la liane, alors, Claire Arnold.
Oui, effectivement. Alors, on les retrouve, d'ailleurs, c'est souvent une source de... Enfin, dans les récits, c'est souvent mystérieux.
Ouais.
Il y a le
c'est
côté,
la jungle, quoi,
c'est la jungle, l'aventure. Donc, on le retrouve par exemple dans Tintin. À l'oreille cassée, etc. L'oreille cassée. On trouve dans Walt Disney aussi une des séquences les plus magnifiques de La Belle au Bois Dormant.
C'est vrai.
C'est lorsque les ronces vont entourer le château. Il y a aussi un symbole de sexualité chez la liane, mais dans d'autres cultures, notamment en Égypte.
Ah bon?
Oui, au début, il y a un rapport aussi entre la liane et le serpent. On n'est pas très loin non plus dans nos cultures proches.
En tout cas, le symbole du sauvage, ça vraiment la liane l'incarne assez bien.
C'est
alors
très...
que c'est là qu'on voit que le sauvage, il est tout autour de nous, hein, finalement. On
absolument,
en a une idée très romantisée, mais...
Absolument, ouais.
Oui, puis il y en a certaines qui sont quand même des symboles, des fleurs nationales. Hein. On a une gloriosa, par exemple, qui est la fleur nationale du Zimbabwe, qui est le lys de flamme.
Il y a une autre
alors,
au Chili aussi.
C'est une colchicacée, donc c'est quand même la colchicine. Hein, et c'est une plante non seulement médicinale, mais chez elle est en voie de disparition. On l'appelle le lys de flamme. Et c'est donc une fleur comme ça, rouge, une sorte de lys rouge. Et elle a été introduite dans beaucoup d'autres îles, en Polynésie française notamment, ou dans les îles Cook. Et puis là, elle se répand partout, parce qu'elle n'a justement pas de prédateurs. Et puis voilà, ça devient des lianes envahissantes.
Ou invasives, voilà. Ces lianes invasives qui sont souvent décrites comme telles. Est-ce que malgré tout, avec l'anthropisation, il y a un déclin quand même de cette diversité végétale?
Bien sûr, notamment, on avait parlé de... on a parlé très brièvement des lianes parasites, qui sont parasitées, comme celle de la grande... De la plus grande fleur du monde, celle-là est en déclin, effectivement. Mais pas parce que la fleur parasite la liane, mais parce qu'il y a déforestation autour. La vigne aussi sauvage est en déclin avec les maladies américaines qui sont arrivées il y a 150 ans. Mais il y en a d'autres aussi, notamment la liane de jade en Philippines. Il y a un certain nombre de lianes en voie de disparition à cause justement des activités humaines. Il y a aussi des lianes, au contraire, qui sont extrêmement invasives, comme la vigne marronne sous les tropiques. Moi, j'ai vu des lianes invasives en Patagonie. Vous avez toutes sortes d'échelles entre l'invasibilité et le déclin absolu. Ça dépend des stratégies des lianes et de leur réponse vis-à-vis de l'environnement actuel.
Christian est toujours sur le lierre, hein, sur franceinter.fr. Il écrit « Convainquez-moi de ne pas couper un lierre qui s'attaque à un chêne ».
Mais le chêne sait se défendre tout seul, il n'a pas besoin de quelqu'un pour... Et en plus, je vous rappelle que la liane entretient la croissance du chêne. À moins que ce chêne soit rabougri tout seul au milieu d'un endroit venteux, alors là, le lierre, s'il devient énorme, il peut le faire tomber.
Donc foutez chêne, la paix à votre liane.
Oui.
Ouais. Et à votre chêne aussi, Christian. Laissez-le gérer la situation.
Non, mais peut-être laissez pousser d'autres arbres autour du chêne, il se défendra mieux.
Okay. Claire Arnold, est-ce que la vigne sauvage, est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui, finalement?
Oui. Très peu. Et justement, ça, c'est un peu pourquoi on a fait un chapitre sur la vigne. Parce que la vigne regroupe un peu tous les aspects des lianes. C'est la plante rare. C'est l'ancêtre de la plante cultivée. Mais elle a quasiment complètement disparu de l'Europe. Et
au point d'être considérée comme en danger critique d'extinction,
elle est
c'est
en
ça.
En danger critique d'extinction, non seulement parce que son milieu disparaît, mais aussi parce qu'il y a des plantes invasives.
Merci en tout cas beaucoup à toutes les deux. C'était passionnant comme la promesse de votre livre l'été, Éloge des lianes. C'est un monde méconnu à découvrir avec de très belles photos, des dessins et un texte grand public chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans La Terre au Carré.